qui est inspiré par ton esprit. On a besoin que le même esprit qui a inspiré ces auteurs nous inspire, nous, dans notre compréhension des choses, afin que ce soit toi qui nous parles et pas nous, qui nous approprions ta parole, comme nous le voulons. Amen. J'entame une nouvelle série. Voilà, on va commencer aujourd'hui à lire la première lettre de Paul à l'église de Corinthe. Donc vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles à cet endroit, si vous les avez. Sinon, on va lire ensemble ce texte. Et aujourd'hui, nous resterons modestement sur les trois premiers versets, juste l'introduction. À cette époque-là, la manière dont on rédigeait des lettres était un petit peu formelle, et on commençait toujours une lettre par une salutation de la part de, nanani nanana, adressé à, voilà, la paix et la grâce sur vous. C'était un peu toujours comme ça. Et Paul, qui était un juif de culture romaine, n'échappait pas à cette tradition et quasiment toutes ses lettres commencent de cette manière-là. Donc, on va lire dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 1 à 3, cette introduction. De la part de Paul, qui par la volonté de Dieu a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ, et de la part de Sosthène, notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui, là-bas, appartiennent à Dieu par leur union avec Jésus-Christ, et qui sont appelés à vivre pour lui, avec tous ceux qui font appel au nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Donc un cycle dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première, c'est une longue épître de 16 chapitres. Je ne vais peut-être pas faire tous les 16, ça nous emmènerait loin. Mais je pense lire d'une traite les 4 premiers chapitres au cours des prochaines prédications. Des chapitres qui traitent principalement de l'unité de l'Église de Jésus. Donc c'est bien l'apôtre Paul qui a fondé cette église à Corinthe. Si vous voulez lire ce passage, vous pouvez aller dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, et vous verrez comment Paul a été amené à implanter quelque part cette communauté dans la ville de Corinthe, où il n'y avait aucun chrétien avant lui. Cette lettre que nous lisons, on estime qu'elle a été rédigée aux alentours de 54 après Jésus-Christ. L'église de Corinthe était une jeune et bouillante église. Elle n'avait pas 3-4 ans d'existence. Hein. Quand vous pensez que ce temple-là en a 150, vous imaginez. Une église bouillante. Et Paul écrit à cette église qui se pose beaucoup de questions, qui connaît beaucoup de disputes, de désaccords qui la secouent. La communion entre les croyants risque d'être brisée. Déchiré. Et Paul écrit, entre autres choses, pour que cette communauté se renoue. Et pour cela, il a profondément à cœur que cette communauté retrouve son attachement à son identité, c'est-à-dire son attachement à la personne de Jésus. Pas à des idées, pas à des doctrines, pas à tout un ensemble de valeurs que nous voudrions promouvoir, pas du tout. Mais à une personne. Alors ce matin, je vais simplement m'intéresser à la salutation de la lettre de Paul. Et comme à son habitude, l'apôtre Paul personnalise. Si vous lisez toutes les lettres qu'il a écrites dans la Bible, il y en a un paquet, hein, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Philémon, Tite, 1 Timothée, 2 Timothée, donc il y a beaucoup de lettres, vous pouvez les lire. Chaque en tête de lettre, si vous voulez, est personnalisée dans le sens où on y retrouve déjà les éléments qui vont faire toute la lettre, des indices de ce à quoi Paul va s'intéresser. Et voilà commence la lettre de Paul. De la part de Paul, qui par la volonté de Dieu a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ, et de la part de Sosthène, notre frère. Notre traduction, Paul, appelé à être apôtre du Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, plus sobre. Bref, Paul a probablement écrit cette lettre avec l'aide de Sosthène. C'était souvent le cas à l'époque qu'un copiste, qu'un écrivain, écrive la lettre et que l'auteur de la lettre la dicte. Papyrus ou le parchemin coûtait très cher à l'époque et devait être économisé, on n'avait pas de typex. Alors, on confiait l'écriture à des gens qui étaient bien doués pour ça. Paul dit qu'il est apôtre de Christ, un titre spécial. Un apôtre, c'est quelqu'un qui accomplit une mission au nom de quelqu'un d'autre. Si Paul est apôtre de Christ, ça veut dire qu'il s'est vu confier la mission, une mission qui l'autorise à agir, à parler à la place, au nom de. C'est une grande marque de confiance, une grande responsabilité. Pendant les 3 années de son ministère, Jésus a formé des disciples, 12 disciples, en leur enseignant toutes choses à propos du salut et du royaume. Comme on est en train de le voir au cathé. Les disciples, après que Jésus soit remonté auprès du Père, ont continué à enseigner et à faire grandir ce petit royaume des cieux sur la terre. Et étonnamment, Paul a reçu la même mission que les 11 autres apôtres. Je dis 11 parce que Judas a été perdu. Pourtant, Paul ne faisait pas partie des 11 qui ont connu Jésus pendant son ministère terrestre. C'est pour ça que si vous lisez toutes l'épître aux Corinthiens, il y en a qui contestent l'autorité de Paul et qui disent que il se la pète un peu et qu'il ne devrait même pas vraiment prétendre à être apôtre. Et c'est pour ça aussi que Paul, dans son introduction, souligne cela. Si je suis apôtre, c'est pas parce que je me suis auto-proclamé, c'est pas parce que je l'ai décidé, mais c'est en réponse à l'appel de Dieu. Bien sûr, il est très heureux et très fier d'être apôtre de Jésus et il a envie de continuer et il se donne à fond. Et pourtant, ce n'est pas lui qui l'a choisi. Et c'est un premier point que je veux aborder avec vous, c'est sur la vocation et l'autorité dans l'Église. Au tout début de l'histoire du peuple de Dieu, le peuple a été délivré de l'Égypte. Vous connaissez l'histoire de l'Exode, de la traversée de la mer Rouge et de l'arrivée du peuple au mont Sinaï. Le projet de Dieu était de faire un peuple dont il allait être le Dieu, mais surtout dont il allait être le roi. Et puis, assez rapidement, le peuple s'est plaint. En fait, on veut un roi humain, de chair et de sang qu'on peut voir et toucher comme les autres peuples. Lisez l'histoire de 1 Samuel pour ça. Et vous allez voir que Dieu dit, en fait, ils me rejettent comme roi, ils veulent un roi humain. Et ils vont avoir un roi humain selon leurs critères à eux, et selon leur goût, leur envie, et ce premier roi sera le roi Saül. Puis Dieu va choisir un roi selon ses critères à lui. Et ce sera le roi David. Il y a toute une intrigue autour de ça dans l'histoire biblique. Est-ce que le dirigeant est celui que Dieu a choisi ou est-ce que le dirigeant est celui que les hommes ont choisi? Dans l'Église, s'il y a des personnes qui prennent des responsabilités, des postes d'autorité, des ministères, on appelle ça. Ça vient du mot ministre. Et le mot ministre, ça veut dire serviteur. Il y en a qui devraient s'en souvenir. Je ne dirais pas qui. Ces personnes doivent recevoir leur appel, leur mission de Dieu, comme Paul. Tous les enfants de Dieu sont appelés à vivre la mission de ressembler à Dieu et de témoigner de Dieu et de vivre au service de Dieu. Mais pour que toute l'Église puisse réussir à vivre cette mission, Dieu appelle certaines personnes à des missions un peu plus spéciales. Des pasteurs, des évangélistes, des diacres, des anciens, des diaconesses, des théologiens, des missionnaires, hommes ou femmes. Cet appel se ressent à l'intérieur de soi. Et l'on ressent dans son cœur que Dieu nous pousse à. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous murmurer quelque chose et qui va répandre en nous comme un parfum à l'intérieur de nous. Mais ce n'est pas tout, parce que si les choses se passaient uniquement comme ça, quelqu'un pourrait se lever et dire « Ah, j'ai ressenti dans mon cœur. C'est bon, je peux y aller, je dois être le pasteur de l'Église. » Et non, parce que le même esprit qui murmure dans son cœur, dit-il, habite normalement dans le cœur de tous les autres croyants. Et s'il est le seul à sentir que l'Esprit le pousse à devenir pasteur, missionnaire ou évangéliste, et que tous les autres, sincèrement dans la prière, n'entendent rien, alors il ne doit pas le faire. Alors cette Église ne doit pas chercher à encourager ou à reconnaître son ministère qu'il croit avoir dans son cœur. Voilà trois choses sont nécessaires pour confirmer une vocation, une mission dans l'Église. Recevoir un appel de Dieu, répondre soi-même à cet appel et que ma communauté autour de moi, celles et ceux qui suivent le même Jésus, entendent aussi, reconnaissent que j'ai cet appel. Si je suis le seul à être motivé à partir comme missionnaire, je ne sais pas où, et que tous autour de moi ne ressentent pas, n'entendent pas cet appel, il y a fort à parier que je m'invente quelque chose ou que je me trompe. L'Église est une responsabilité collective. La deuxième chose donc à comprendre par rapport à cette autorité et ses vocations, c'est que dans la pensée biblique, dans le royaume de Jésus, l'autorité, n'importe quelle autorité, ce n'est pas quelque chose qui se prend. On ne prend pas l'autorité. L'autorité, selon Dieu, c'est quelque chose qui se reçoit. L'autorité est toujours quelque chose qui se reçoit de quelqu'un qui a plus d'autorité. Prenez un policier, il reçoit son autorité de la mission que lui donne l'État, son pays. Il ne s'est pas autoproclamé policier et il ne peut pas utiliser l'autorité et même la puissance qu'il a avec le port de son arme comme il l'entend lui. Le président de la République tire son autorité du vote du peuple qui l'a élu. Et dans nos textes, en France, il n'y a pas d'autorité au-dessus de celle du peuple. Alors bien sûr que pour nous, chez les chrétiens, chez les disciples de Jésus, il y a une autorité encore supérieure à celle de l'État, c'est Jésus. Mais en obéissance à Jésus, nous nous soumettons aux autorités de l'État. Ainsi, l'autorité de Paul, comme celle d'apôtre, est reçue de Dieu lui-même. Il n'a pas décidé, pris, choisi. Et dans l'Église, il en va de même pour le pasteur, pour les membres du conseil presbytéral. Aucun ne s'empare de l'autorité dans l'Église par lui-même. C'est une autorité reçue. L'Église, la communauté, doit reconnaître en celles et ceux qu'elle va placer en situation de responsabilité la vocation et la mission. Une fois que l'Église les reconnaît, elle les invite à servir pour la conduire à sa marche à la droite de Jésus. Si un jour vous êtes témoin dans une église d'une personne qui s'empare de l'autorité toute seule, prétendant que Dieu lui a dit ceci ou Dieu lui a dit cela sans que personne d'autre ne puisse vérifier, confirmer, soyez prudent. Il s'agit probablement d'un loup plutôt que d'un réel serviteur de Jésus. En conclusion pour cette première partie, nous sommes tous concernés par la question de l'appel à servir l'Église. D'abord parce que, comme nous l'avons étudié ces derniers mois, Dieu nous a tous dotés de dons à mettre au service les uns des autres. De plus, Nous sommes tous appelés à discerner, à voir, à sentir. Si parmi nous, certains sont appelés à se consacrer plus particulièrement au service de l'Église dans un ministère. Et enfin, troisièmement, nous sommes appelés peut-être à nous interroger nous-mêmes. Est-ce que Dieu m'appelle à un service particulier ? Et si je sens ou je me questionne si j'ai un appel, souvenez-vous, ce n'est pas une démarche à vivre seule et isolée, mais en communion avec tous les autres frères et sœurs qui ont, comme moi, reçu l'Esprit de Dieu. Deuxième point de cette lettre, de cette introduction. Donc on a vu qui écrit cette lettre, Paul et Sosthène, et à qui elle s'adresse. Paul écrit ceci, « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui, là-bas, appartiennent à Dieu par leur union avec Christ, et qui sont appelés à vivre pour lui et avec tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. » Notez avec moi comment Paul commence par dire à l'église de Corinthe, mais plutôt à l'église de Dieu, qui est à Corinthe ? Nous, on dit, vous venez à quelle église ? On va dire, on va à l'église de Dieu, qui est à Vauvert ? On dit, on va à l'église de Vauvert, ou au petit temple, encore plus précisément. Paul écrit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il précise même à ceux qui, là-bas, appartiennent à Dieu par leur union avec Jésus-Christ. On a presque l'impression qu'il voudrait distinguer au sein de l'église de Dieu à Corinthe entre les fidèles qui seraient là, authentiquement attachés à Christ, et puis peut-être d'autres qui seraient là, sans être forcément attachés à Jésus. Et c'est une possibilité. Tous ceux qui viennent à l'église le dimanche matin ne doivent pas nécessairement être attachés à Jésus. Ce serait très bien d'ailleurs. L'église n'est pas un club d'élite réservé à quelques privilégiés. On n'entre pas dans l'église uniquement sur invitation ou cooptation d'autres membres de l'église. N'importe qui peut entrer dans ce temple. N'importe qui peut participer à nos études bibliques, à nos réunions de prière, à nos cultes. Et nous espérons même que cette église se remplisse de personnes qui cherchent Jésus, qui ne le connaissent pas encore. Mais la responsabilité de cette église, la direction de cette église, la charge de cette église revient à ceux qui sont unis à Jésus-Christ. S'il y a parmi vous des visiteurs ce matin qui ne connaissent pas Jésus, on va avoir le temps d'offrande tout à l'heure. On va faire passer les paniers pour récolter de l'argent. Ce n'est pas pour vous. C'est pour celles et ceux qui sont attachés à Christ et qui veulent voir cette communauté grandir et prospérer. Si vous vous sentez vraiment poussé à donner, vous pouvez le faire. Mais je dis ça pourquoi ? Pour dire que la responsabilité, la charge de cette Église, elle est pour celles et ceux qui se sentent en communion avec Jésus-Christ. À l'époque de Paul, certaines personnes qui n'étaient pas justement dans cette communion avec le Christ voulaient de l'autorité, voulaient de responsabilité. Et ainsi, elles troublaient l'Église. Elles n'auraient pas dû le pouvoir, car le cœur qui bat de la vie d'une Église, c'est cette relation intime avec Jésus. Autrement dit, de croire que l'on ne connaît vraiment Dieu le grand invisible qu'en connaissant Jésus, celui qui est venu sur terre il y a 2000 ans de cela. Ainsi, nous ne pouvons pas confier la direction de nos assemblées à des personnes qui ne seraient pas authentiquement attachées au Seigneur. Là encore, c'est votre discernement qui est en jeu, votre responsabilité. Que personne ne s'autoproclame, mais que tous soumis les uns aux autres, nous sachions écouter lorsque l'on est appelé à prendre des responsabilités, mais que nous ne les convoitions jamais pour nous-mêmes. Pour l'apôtre Paul, c'est là le sens de l'Église. C'est pour cela qu'il continue en écrivant que cette Église de Dieu, qui est à Corinthe, est liée et connectée avec toutes les autres églises qui font appel au nom de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas que de elle, il s'agit de toutes celles et ceux qui, partout dans le monde, font appel à Jésus-Christ qui est leur Seigneur et aussi le nôtre, écrit Paul. Si l'Église s'attache plus à quelque chose qu'à Jésus-Christ, elle va glisser lentement mais sûrement vers une sorte de mort spirituelle. Oh, la communauté peut continuer d'exister, même longtemps, mais son cœur va durcir, s'effriter. Les gens vont se replier sur eux-mêmes, sur leurs traditions, leurs habitudes, leurs routines. Sur la peur, et même le mal finira par grandir. L'Église est-elle Église parce qu'elle a un magnifique temple en pierre? Dieu nous en garde, mais si dans un an, la foudre s'abat sur ce temple et le crame, ou transperce le plafond, et qu'il faudrait sortir 150 000 euros de travaux, pourrions-nous continuer d'exister sans ce temple, sans ce local, sans ce lieu? L'Église est-elle Église parce qu'elle a un pasteur, ou pire, parce qu'elle a ce pasteur-là et aucun autre? Est-elle Église parce que ça fait 150 ans qu'elle est dans le paysage? Est-elle Église parce qu'elle a autant de fidèles qui viennent le dimanche matin ou autant d'abonnés sur Internet? Non. Elle est Église parce que quand on met le pied à l'intérieur, on sent que Jésus est là. Elle est Église dans la manière dont on voit les frères et sœurs se saluer, s'aimer, être attentifs les uns aux autres. Comme Jésus l'a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vont voir que vous êtes mes disciples. Il n'a pas parlé du bâtiment. Il n'a pas parlé de la taille de l'assemblée. Alors nous parlons d'être unis à Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on a déjà dit et redit, mais il faut le redire encore. Pour nous les chrétiens, le Christ qui a vécu il y a 2000 ans, qui est mort à l'âge de 33 ans, crucifié sous le règne de Pilate en Galilée. Pour nous, cette personne était le Fils de Dieu, il l'est toujours. Il n'est pas resté dans la tombe, mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Nous disons que celui qui l'a vu, a vu le Père. Nous disons aussi que, je suis en train de m'emmêler dans mes feuilles, aujourd'hui, même s'il vit dans la réalité invisible de ce monde et que nous vivons dans la réalité visible de ce monde, nous pouvons toujours être en communion avec lui, en connexion avec lui. Il est quelqu'un de réel. Lorsque nous cherchons cette unité avec Jésus, on parle d'un lien mystique, spirituel, pas physique, une expérience intérieure, personnelle. Et pourtant, la plupart d'entre vous, en écoutant Bruno raconter ses témoignages, ont compris ce qu'il a vécu. Pourquoi ? Parce que vous avez vécu la même chose déjà. Nous avons tous notre relation individuelle avec Jésus, et étonnamment, lorsque nous parlons de ce que nous vivons dans cette relation individuelle avec Jésus, nous nous reconnaissons les uns les autres. Ah, j'ai vécu la même chose. Pas toujours. Certains ont des choses très particulières qui leur sont propres. Mais nous constatons que nous partageons tout un tas d'expériences communes dans cette relation à Christ. Alors on se rassemble le dimanche matin. On vit en église, en assemblée, pour rester connecté avec lui. Il nous donne un lien, on appelle ce lien l'Esprit Saint, comme une petite ambassade de Dieu dans mon esprit, où il y a toujours une présence qui est là, toujours quelqu'un avec qui parler, dans mes pensées, dans mon cœur. Être uni à Christ, c'est le sens de la foi chrétienne. Si je suis uni à Christ, et que vous êtes aussi unis à Christ, alors nous sommes unis les uns aux autres aussi. C'est là le tout premier sens de l'Église. Je suis uni à Jésus, vous êtes unis à Jésus, alors nous sommes unis les uns aux autres. La première des raisons pour laquelle nous nous rassemblons le dimanche, partout dans le monde, catholiques, protestants, orthodoxes, c'est ça. Et déjà, c'est la plus difficile. Parce que je suis content d'être uni avec Jésus-Christ, mais lui, là, ou elle, je ne sais pas s'il prend beaucoup soin de sa communion avec Jésus. Hein. Moi, je sais que je suis sauvé avec le Seigneur même, mais bon, quand même, lui, il se laisse un peu aller. Ou elle... Et déjà, quand on vient à l'église le dimanche matin, le plus difficile est là. Si Christ est mort pour moi, qu'il est mort aussi pour lui, pour elle, c'est ma sœur, c'est mon frère. Pas parce que je le veux, pas parce que je le reconnais, pas parce que je le souhaite, pas parce que je le déclare ou que je l'estime, mais parce que lui. On a chanté un chant qui dit « Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Et je ne comprends pas pourquoi je fais ta joie. » Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je fais ta joie. Mais lui, je doute qu'il fasse ta joie. Hein. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi tu fais ta joie. Alors, vous voyez comme on peut tout de suite faire des exceptions. Pour moi, ça passe. Pour lui, je ne suis pas sûr. Et dans cette lettre, justement, de Paul aux Corinthiens, il va leur rappeler ceci. Le plus important, le cœur de l'Église. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi, ce n'est pas nos valeurs, nos doctrines. C'est la personne qui est au milieu de nous, à laquelle nous sommes attachés, parce qu'elle nous transforme, transforme notre vie. C'est parce qu'elle nous relie les uns aux autres. Car si Jésus est réellement ressuscité, s'il est réellement revenu de la mort à la vie, alors nous avons une espérance solide que ce monde sera un jour lui aussi délivré de la mort et du péché. Ce monde magnifique et brisé à la fois, ce monde beau et rempli de mal en même temps, il est l'œuvre parfaite du Créateur tombée entre les mains de la corruption. En Jésus, nous trouvons l'espérance qu'un jour, le bien, la justice, la vérité, la vie seront tout ce qu'il y a à vivre. Pour toujours. En attendant ce jour, nous nous fortifions les uns les autres, et nous nous portons les uns les autres, et nous cherchons à briller de sa lumière autour de nous, en apportant la bénédiction du Christ comme il nous a bénis, en apportant sa présence comme il est venu à notre rencontre, en apportant son espérance comme il nous a réconfortés pour toujours. Alors que la connaissance du Christ, de son amour et son pardon grandissent chaque jour un peu plus en chacun de vous. Amen. Merci.